Chapitre 11. Préparatif d'une grande solennité. Avant de m'aborder, ma belle Amazone écarta du geste les bonnes gens que leur curiosité rapprochait de moi. Elle leur dit sans élever la voix, mais d'un accent impérieux. « À distance, mes enfants !» Ils obéirent aussitôt. Moi, je la regardais venir, et à mesure que je la voyais mieux, je m'étonnais davantage d'avoir pu la prendre pour ma petite Vivette. Elle était d'abord plus grande que Vivette. Elle avait pour le moins 5 ou 6 ans de plus que ma cousine. Était-elle moins jolie? Je ne sais. Elle était certainement plus belle. Son regard avait un éclat profond qui n'appartient point aux jeunes filles. En m'abordant, elle me salua gracieusement et me tendit son arme en disant « Si mon fusil avait été chargé, je ne l'aurais pas donné à ce loup. Voulez-vous voir ?» Je m'inclinai sans répondre. Il paraît pourtant que mes yeux parlaient, car une teinte rosée monta parmi les charmantes pâleurs de sa joue. « Je suis un ambassadeur, » reprit-elle. « Vous êtes gentilhomme, monsieur ?»«
J'ai cet honneur, madame la vicomtesse. »
Elle sourit et reprit. « Serait-il indiscret de vous demander pourquoi vous êtes ici ?»«
Serait-il impertinent de vous répondre que j'y suis venue dans le même but que vous ?»«
Non, » fit-elle. « Ce serait au contraire très prudent et très adroit, mais ce serait mentir. Le vrai, c'est que vous êtes ici, mon cher monsieur, par suite d'un mouvement de curiosité bien naturel à votre âge. »«
Qu'est-ce qui se passe autour de nous ?» demandai-je.
Cette question jaillit de mes lèvres en dépit de moi.
« Chut !» fit-elle.
« Voilà qui n'est pas bien parlé. Ces quelques mots me racontent toute votre histoire. Vous êtes un cadet de Basse-Bretagne en route pour chercher fortune à Paris. Moi, je le devine, mais ne le dites à personne ici, sans quoi vous perdriez l'aubaine que vous offre votre bonne étoile. On a grand besoin d'argent dans ce Paris. Je vous en prie, ne me regardez pas si tendrement. Est-ce que je lui ressemble ?»«
Oui, » répliquai-je.
« Justement. » Elle réprima un éclat de rire. « C'est égal, » poursuivit-elle. « Mettez dans vos yeux, qui sont très beaux, de la méfiance et de la ruse. C'est votre rôle. Songez que vous êtes le Judas et que je suis chargée de vous adresser cette question. Consentirez-vous à vider la place moyennant une prime de 100 louis ?»«
100 louis ? »
m'écriai-je si haut que toutes les peaux de bique dressèrent l'oreille. « Malheureux !» fit mon Amazone. « Vous êtes ruiné si vous n'ajoutez pas tout de suite et du ton le plus bourru. Ah, ça, est-ce qu'on se moque de moi? Allez, ils peuvent faire mieux. » Ma foi, je commençais à comprendre, et l'aventure m'amusait au dernier point. Je haussais les épaules et je répétais docilement. « Ah, ça, est-ce qu'on se moque de moi? Ai-je l'air d'un homme à qui on offre 100 louis ?» Les peaux de bique s'agitèrent. Tout le monde m'avait entendu. Dans les groupes du menu peuple forestier, on se disait « De sûr et de vrai, je ne mens pas, car c'est péché. En v'lin qui va gagner sa journée. Et là, si c'est qu'on pourrait mordre tant seulement un brin de ce qu'il a dans son porte-manteau, ce Judas-là !»« Tout va bien, » murmura mon Amazone. « Vous avez été parfait. » Elle ajouta d'un ton de colère pour la galerie. « Combien demandez-vous alors ?»«
Double !» répartis-je sans qu'on m'eût rien soufflé cette fois.
« C'est assez, » me dit-elle tout bas. « Comment vous nommez-vous, ceci pour moi ?»«
Chevalier Gaston de Kéramour. »«
Ah, le joli nom, comme elle doit vous aimer. Moi, je m'appelle Catiche, et je ne resterai pas longtemps vicomtesse. Au prix que j'ai payé, il n'en coûte pas plus d'être marquise. Mettez-vous à votre aise, installez-vous comme si vous deviez rester ici jusqu'à demain, et voyez venir. »
Elle me tourna le dos si prestement que je n'eus pas le temps de lui répondre. Quand elle fut partie, il me sembla que je voyais encore le pétillement de ses grands yeux. Sur ma parole, elle était plus jolie que Vivette. Pour lui obéir, j'étendis au pied du chêne mon manteau plié en 4, et je m'assis dessus en homme qui ne compte pas s'en aller de sitôt. Charbonias, Braconias, Cherchou de pain et Ramassou de brinde me regardaient maintenant avec une admiration mal déguisée. En abordant le concile des 12 apôtres, l'Amazone dit «
J'ai fait de mon mieux, mais il est intraitable. »«
Qui est-il? D'où vient-il ? » demanda Saint-Pierre.
« Il vient de Nantes. Il est fils de marchand. Il n'a pas voulu me dire son nom. Il représente 3 chantiers de la rivière de Loire, et sa valise contient 100 000 écus d'il vous plaira payer. »
Saint-Pierre jura comme un carteron de païen. Les autres baissèrent la tête en murmurant « 200 louis, c'est cher. Dans la foule des sans-gêne, on chuchotait. Mais Jésus, vrai bon Dieu, et Sainte Vierge, et tous les saints et tout, pas de jaloux. Je ne mens pas. Si c'est que le Judas perdrait son bagage, et qu'on aurait l'esprit de le retrouver dans la ramée, l'idée me venait qu'il ne serait pas bon de se promener sous la futaie après le brin de nuit. Pendant que le conseil des peaux de bique discutait à mon endroit, sacrait et se lamentait, un mouvement soudain se fit parmi l'assistance déguenillée. Une bonne moitié de ces pauvres diables passa devant moi en courant pour se ruer vers le sentier qui montait la rampe. « Le monsieur Gruyé juré » disait-il. « Le monsieur Prévost-Garde ! Holard ! Holard !» C'est le cri de joie nationale, le lard étant la suprême friandise. Au sommet de la rampe parut un grand sec, remarquable par l'énormité de ses oreilles. Il était drôlement costumé en manière de bailli et faisait la tête d'une procession composée de commis campagnards. C'est une chose surprenante comme les gratte-parchemins pullulent chez nous, même au fond des bois où personne ne sait lire. On prit à droite et à gauche les bridons de la rosse qui avait l'honneur de porter le gruyé juré, ce qui lui permit d'arriver au bas de la descente sans encourir le même accident que Taupin. Ses commis déballèrent en même temps que lui, importants et gourmets comme lui. Puis vint, précédant une seconde procession, un sordide bonhomme, gros et luisant, portant l'épée par-dessus une douillette de laine brune qui, pour être convenablement lavée, eût demandé l'eau de 4 lessives. C'était monsieur le Prévost-Garde, un rude luron, qui avait plus d'un coup de forcidre sous son bonnet. On le fit descendre sans encombre, et il traversa majestueusement, avec toute sa séquelle, le fond de l'entonnoir pour rejoindre monsieur le Gruyé, qui était déjà dans l'enceinte, où les peaux de bique couvraient un large passage à l'autorité. Tout cela était fort imposant, mais nous n'étions pas au bout. Le bruit d'un tambour fêlé se fit entendre sous bois. « Holard ! Holard ! L'intendance et la maréchaussée !» L'intendance apparut la première. C'était quelque surnuméraire, un jeune homme plus maigre que les clous, escorté par 2 receveurs à livrer et 2 porteurs de registres, noirs comme des taupes, derrière lesquels chevauchaient 4 superbes soldats du régiment de gendarmes d'Orléans, dont la lieutenance du roi entretenait 4 compagnies aux frais de la province. On peut juger qu'un pareil déploiement n'avait pas lieu pour peu de choses. Les autorités se firent d'abord les politesses qui se doivent, puis le petit jeune homme de l'intendance, qui n'avait pas encore eu le temps d'engraisser, prit place au centre de la table de sapin. À ses côtés, le gruyé juré et le Prévost-Garde s'assirent. Les commis, les greffiers, les rats de bureau, les écorches-papiers, les rongeurs de plumes et les suppôts de toutes sortes prirent place où ils purent. Il y eut plus de 20 écritoires dégainés, tandis que les soldats de la maréchaussée, droits et hauts sur leurs grandes haridelles percheronnes, flanquaient les coins du carré, semblables à 4 statues équestres. Les sans-gêne m'avaient oublié pour regarder avec leurs yeux ronds, écarquillés tout large, l'étonnante splendeur de ce spectacle. Mais les apôtres songeaient toujours à moi, Dieu merci, au moment où, sur un signe du petit maigrot de l'intendance, le tambour de la ville de Rennes bégayait son premier roulement, Saint-Pierre dit un mot à l'oreille de mon Amazone qui se dirigea aussitôt vers moi. Saint-Pierre avait fait mieux que parler. Il avait mis à contribution les apôtres et déposé dans la belle main de sa vicomtesse un petit sac de cuir qu'elle avait pris en souriant.